Vous écoutez RTL.
RTL.
Première radio de France.
RTL.
Je pense qu'il est inadmissible de faire la glorification de la colonisation. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes. Et la France a installé les droits de l'homme en Algérie. Simplement, elle a oublié de les lire.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Vous venez de l'entendre, Emmanuel Macron, c'était le 14 février dernier. Il était invité sur une chaîne de télévision algérienne et il qualifiait la colonisation de crime contre l'humanité. Emmanuel Macron, qui sera d'ailleurs sur RTL dans la matinale d'Yves Calvi, vendredi matin entre 7 et 9 heures. Cette déclaration d'il y a deux semaines, elle a déclenché la polémique. 55 ans après l'indépendance de l'Algérie, on a voulu savoir pourquoi c'était toujours et pourquoi c'est toujours un sujet qui fâche. Pour nous éclairer, notre consultant en histoire, Pierre Baron. Bonsoir Pierre.
Bonsoir.
Alors, ce que je disais, on va essayer de dédramatiser.
On va essayer, c'est promis. En tout cas, on va pas se fâcher, nous. Mais sur un sujet qui, de toute façon, fâche. On va juste essayer de comprendre le pourquoi et surtout pourquoi ça ne passe toujours pas, cette affaire-là.
Alors, on va commencer par ce qui déclenche cette polémique, c'est-à-dire la déclaration d'Emmanuel Macron et ses mots, crime contre l'humanité. Est-ce qu'elle est justifiée d'un point de vue historique ?
D'abord, attention. Attention, danger. Je dis ça parce qu'on est en plein dans la confusion, ou plutôt dans l'amalgame des genres. Avec une fusée à trois étages. Premier niveau, c'est la déclaration tout de même d'un candidat à l'élection présidentielle. Donc forcément, à moins de se croire chez les bisounours, ce sont des propos qui, évidemment, ne sont pas dénués d'arrière-pensées électorales.
Alors,
premier point.
Oui, alors ça c'est le premier étage de la fusée, il y en a deux autres. Ce sont lesquels, Pierre ?
L'autre niveau est purement juridique, c'est la notion de crime contre l'humanité. Le premier à avoir employé cette expression, c'est Robespierre, qui au moment du procès de Louis XVI voulait que le roi soit déclaré criminel contre l'humanité. Un certain nombre de nos compatriotes, notamment en Vendée, apprécieront. Mais sur le plan international, il faudra attendre 1945 et la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que l'on définisse plus précisément ce chef d'accusation.
Et comment ça fait cette définition, ce terme de crime contre l'humanité, comment ça fait son apparition justement dans le droit pénal international ?
Ça apparaît, Thomas, au procès de Nuremberg, qui a eu lieu du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946, soit presque un an. Il faut rappeler que ce procès a été intenté par les puissances alliées contre 24 des principaux responsables du Troisième Reich. C'est aussi la première fois que délibère dans l'histoire une juridiction pénale internationale. Et c'est le génocide des Juifs d'Europe qui, encore une fois, perpétré par les nazis, qui constitue le premier crime contre l'humanité légalement reconnu comme tel.
Et selon quels critères le tribunal militaire international s'est-il prononcé ?
Le texte définit le crime contre l'humanité, je cite, comme l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain inspiré par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisé en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile.
Donc ça, c'est la définition officielle du tribunal militaire international. Et c'était important de contextualiser et de prendre les différentes étapes pour maintenant poser la question et revenir sur la déclaration d'Emmanuel Macron. Est-ce que ces critères peuvent s'appliquer à la colonisation de l'Algérie ?
Ah, c'est notre troisième niveau. Et là, pour vous dire franchement les choses, Thomas, je me sens beaucoup plus à l'aise. C'est celui de l'histoire. Et là-dessus, il y a une écrasante majorité de spécialistes pour répondre non. On va commencer par les juristes. Le dernier avis en date émane d'un arrêt de la Cour de cassation, qui est quand même la plus haute juridiction du pays, qui en date du 17 juin 2003, considère qu'il n'y a pas lieu de crime contre l'humanité pendant la guerre d'Algérie. Les hauts magistrats sont rejoints sur ce point par la plupart des historiens. Évidemment, personne ne conteste les atrocités commises pendant les 130 ans qu'a duré l'occupation française, et notamment pendant les 8 ans de la guerre qui va mener à l'indépendance du pays. Et pendant celle-ci, il faut aussi rappeler, et c'est là que c'est très important dans toute cette émission, qu'il y a eu des victimes et des bourreaux dans les deux camps. Même si personne n'a jamais demandé au peuple algérien son accord pour être militairement conquis, évidemment.
D'ailleurs, justement, lorsque la France a fait la conquête de l'Algérie, celle-ci était déjà sous la domination d'une autre puissance.
Oui, exactement. C'est en 1830, l'Algérie était sous tutelle de l'administration ottomane. Il y avait un empire qui sera disloqué au lendemain de la Première Guerre mondiale et dont la France et l'Angleterre vont se partager certains territoires, notamment, et on le voit encore aujourd'hui, au Moyen-Orient.
Alors moi, je le découvre avec vous, donc c'est pour se débarrasser ou pour évincer les Turcs que la France décide de partir à la conquête de l'Algérie.
Oui, pas seulement. Au départ, Thomas, c'est une banale histoire d'argent. Pendant la Révolution française, le D, D-E-Y, d'Alger, qui en fait...
C'était le D d'Alger?
Ah, c'est le responsable de la régence turque, si vous voulez, c'est le haut dignitaire turc local. Hein,
d'accord.
Avait prêté de l'argent au gouvernement français. Et depuis, la France n'avait toujours pas fini de rembourser ce prêt intégralement.
C'est une histoire de dette.
Exactement. Donc le D, en l'occurrence, Hussein D, que les Pieds-Noirs nommeront avec un quartier célèbre d'Alger, qui s'appelle Hussein D, c'est Hussein D,
oui,
a commencé sérieusement à s'impatienter. Et le 30 avril 1827, il soufflette par trois fois avec son chasse-mouche le consul de France qui refusait toujours de rembourser la dette. Le roi Charles X exige des excuses, elles ne viennent pas. L'incident entraîne la rupture des relations diplomatiques et cela va servir, trois ans plus tard, à l'envoi de notre marine depuis Toulon et entraîner la prise d'Alger.
Et c'est donc en 1830 que l'Algérie est devenue française. Comment l'opinion a-t-elle réagi à l'époque? Enthousiasme ou indifférence? Réponse dans un instant sur RTL.
Vous écoutez RTL.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Dans la curiosité, on redécouvre calmement et sans esprit de polémique l'histoire de la colonisation grâce à notre consultant en histoire, Pierre Baron. Avec vous, on a raconté la prise de contrôle de l'Algérie par la France, c'était en 1830, sous Charles X.
Une histoire de dette quand même, c'est assez
dingue, d'argent,
vous avez raconté tout à l'heure. Ouais.
Comment elle est perçue, cette opération militaire, par l'opinion française? Est-ce qu'il y a de l'enthousiasme, au contraire, de l'hostilité qui va prédominer?
Au départ, c'est plutôt l'indifférence. Le premier ministre de Charles X, le prince de Polignac, en fait, il a toutes les raisons de faire diversion, de sauter sur l'occasion, si j'ose dire. Car il rencontre de sérieuses résistances dans la mise en œuvre de sa politique intérieure. Donc l'intention politique est très claire à Paris. Le gouvernement veut renouer avec les conquêtes militaires de Napoléon. C'est pas si vieux, hein.
Ouais.
1815, traité de Vienne. On est en 1830 et on se dit que en ressuscitant cet enthousiasme, ouais, de conquête, on va faire oublier la dureté de la politique intérieure qu'on a appelée ultra, c'est-à-dire ultra-monarchiste. Ouais. Voilà. L'Algérie, c'est une façon de détourner la colère ou l'opposition intérieure.
Alors, comment ça se passe sur le terrain? Vous nous avez dit que l'opération militaire démarre avec l'envoi de notre marine depuis Toulon. On imagine que les soldats français n'ont pas dû être accueillis à bras ouverts. Comment ça se passe?
Ah non, ils n'ont pas été, franchement, et même pas du tout accueillis à bras ouverts. En fait, la conquête, elle se fait en plusieurs étapes. Il y a le débarquement de l'armée d'Afrique à Sidi Ferruche, le 14 juin 1830, et on va aller jusqu'à la reddition de l'émir, qui est assez connu quand même dans les livres d'histoire, Abdelkader, le 23 décembre 1847. Donc vous voyez, c'est une petite vingtaine d'années.
Mmh.
Et cette phase, elle se termine par l'annexion pure et simple de l'Algérie à la République française, avec la création de départements français, trois départements français d'Algérie en 1848, Oran, Alger et Constantine.
Est-ce que cette conquête, Pierre Baron, de l'Algérie par la France est particulièrement meurtrière?
Ah oui, Sidonie, en moins de 20 ans, le bilan des pertes humaines est très très lourd. Les chiffres, alors là, c'est étonnant, mais c'est comme ça, varient énormément selon les sources que j'ai consultées.
Peut-être.
En fait, selon les historiens.
Ça dépend qui a écrit l'histoire.
C'est... Même au sein de... Enfin, que ce soit des historiens français aussi,
algérien, ouais.
Ouais, on a des sources très très variables. On peut parler, je dirais, en incluant les décès, faut pas les oublier, dus au choléra, au typhus, au paludisme, on a quand même 300 000 morts environ côté français, et 500 000 morts côté algérien. Donc cette conquête, elle a aussi, parce que c'est un volet important d'un point de vue économique et humain, complètement désorganisé l'agriculture locale en provoquant un certain nombre d'années des hécatombes dans la population algérienne.
Pourquoi? Parce que les terres ont été confisquées par l'armée, c'est ça?
Oui. Et ça fait une grosse différence entre l'Algérie, par exemple, et le Maroc ou la Tunisie. On est dans une colonisation, on n'est pas dans un protectorat.
Ah, c'est vrai, ça
signifie,
les deux termes différents.
Oui. Et oui, Thomas, ça signifie que, contrairement à la Tunisie ou au Maroc, il n'y a pas d'embryon de pouvoir. Là, en Algérie, dès le départ, on est dans une colonisation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est du peuplement. Ça veut dire que les militaires français deviennent des colons, au départ, qui s'installent et qui aménagent le territoire conquis. Effectivement, au départ, c'est des militaires, mais ils vont être rejoints par des compatriotes, comme les Corses, les Alsaciens ou les Lorrains, dont le territoire a été occupé par l'Allemagne après sa victoire sur la France en 1870.
Alors Pierre Baron, on a échangé aujourd'hui pour préparer cette émission. Et alors moi, j'ai découvert que l'Algérie, c'était aussi une terre d'accueil, ou plutôt une terre d'exil, pour les opposants au régime, au gouvernement existant en France. C'est ce que l'on appelait la question sociale. Vous pouvez nous expliquer ça ? Comment ça s'est mis en place ?
La question sociale, c'était éloigner au maximum ceux qui pouvaient menacer le pouvoir en place. Et ce qui menaçait beaucoup à cette époque-là le pouvoir en place, c'est les prolétaires, dont la misère était un danger permanent pour le pouvoir. On l'a vu dans l'histoire avec les soulèvements de juin 1848. On l'a vu pendant la Commune de Paris en 1871. Victor Hugo, notre très grand Victor Hugo, avait d'ailleurs trouvé une formule choc pour justifier cette colonisation. Il écrivait ceci: « Versez votre trop-plein dans l'Afrique et du même coup, résolvez vos questions sociales, changez vos prolétaires en propriétaires. »
Alors ça, c'est une vraie surprise, Pierre Baron, que Victor Hugo puisse tenir des propos pareils. Donc ça veut dire qu'on est aussi parti à la conquête de l'Algérie. Vous nous disiez Charles X, c'est presque un écran de fumée pour masquer les difficultés internes, renouer avec des conquêtes prestigieuses, des conquêtes extérieures. Donc ce sont aussi des rois ou des pouvoirs un peu autocratiques qui craignent le peuple,
qui craignent ce mouvement prolétaire des villes, des grandes villes. Paris surtout, mais pas que, Lyon aussi par exemple, qui restent extrêmement dangereux, qu'on contrôle mal, très peu, et qui vivent dans une misère noire. Donc l'idée d'éloigner ces gens, mais de les, entre guillemets, hein, c'était l'idée de Hugo,
oui.
Je dirais pas les embourgeoiser, mais de leur donner, on en revient tout à l'heure, des terres, donc des propriétés, donc un autre statut, faisait qu'on les éloignait de la contestation politique ou révolutionnaire, et donc pour le pouvoir en place, pardonnez-moi l'expression, mais c'était un peu pain béni.
Et donc c'est pour ça que finalement on est aussi plutôt dans une colonie qu'un protectorat, c'est-à-dire que c'est le cran au-dessus dans une logique de colonisation.
Oui, parce que trois départements, je l'ai dit tout à l'heure, qui sont des départements français, au même type que la Creuse ou le Finistère. C'est autre chose que ce qui se passait en Tunisie ou au Maroc, où encore une fois, vous aviez, même si c'était symbolique, un reste d'embryon ou d'autorité locale. Ça pouvait être un cache-misère, mais cela existait. Et ça a généré des conflits nettement moindres. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu une guerre féroce au Maroc, notamment dans les années 30 d'ailleurs. Mais tout de même, on est très loin de ce choc frontal et extraordinairement dur entre la France et l'Algérie, parce que là, on est dans un statut de colonie.
Et on commence à avoir une explication des raisons pour lesquelles la question algérienne reste encore brûlante dans l'actualité française aujourd'hui.
Et d'ailleurs, avec vous, Pierre Baron, on va de surprise en surprise, parce que la colonisation trouve aussi de nombreux défenseurs à gauche. Par exemple, un certain Jules Ferry. Explication dans un instant sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La France a bâti un empire gigantesque en Afrique, bien sûr. L'Afrique du Nord, l'Afrique noire, mais aussi l'Indochine, l'Asie.
La curiosité est un vilain défaut.
La France a été le centre, la métropole de ce gigantesque empire. C'est donc une histoire intérieure française. L'histoire coloniale, ce n'est pas une histoire exotique, périphérique. Elle est au contraire une histoire très franco-française.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Emmanuel Macron sera l'invité de la matinale d'RTL vendredi entre 7 et 9 et deux semaines après sa phrase polémique sur la colonisation, crime contre l'humanité. On a décidé dans la curiosité de raconter sans parti pris cette page de notre histoire avec notre consultant Pierre Baron. Pierre, vous nous disiez tout à l'heure que Victor Hugo avait justifié la colonisation par cette formule choc: résolvez votre question sociale, changez vos prolétaires en propriétaire. Une autre figure de la gauche républicaine, Jules Ferry, va lui aussi être un soutien de cette colonisation. Surprise quand même.
Ah, c'est une grosse surprise, d'autant que on peut dire que c'est le plus fervent promoteur de la colonisation. C'est certainement celui qui est le plus enthousiaste à la défendre sur les bancs de l'Assemblée, avec parfois des discours qui, en 2017, provoque un certain malaise quand même.
Il le fait de quelle manière ? Vous avez des extraits de ces discours de Jules Ferry ?
Je pense notamment à un extrait qui est resté tristement célèbre, Sidonie, d'une intervention faite à l'Assemblée nationale et qui dit ceci : « Messieurs, il y a un point que je dois également aborder, c'est le côté humanitaire et civilisateur de la question. Il faut dire ouvertement qu'en effet, c'est là qu'on s'accroche, les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. »
Ça fait un petit peu froid dans le dos, Pierre. Et à la fois, est-ce qu'il faut se remettre dans le contexte aussi pour juger ces propos ?
Exactement, il faut faire attention. Ces propos ont été tenus en juillet 1885. Je rappelle qu'ils ont été suivis sur les bancs du Palais Bourbon par des salves entières d'applaudissements. Le réflexe élémentaire de l'historien aujourd'hui, c'est de ne pas juger ces mots, ce discours, à l'aune de notre façon actuelle de penser. Cela étant, il faut le dire quand même, heureusement, il y avait des opposants célèbres à la colonisation.
Oui, c'est pas parce que ce discours hyper choquant, hein, évidemment, avec nos yeux d'aujourd'hui, c'est insupportable de vous entendre citer Jules Ferry. Il y avait quand même aussi, à l'époque, en 1885, des gens qui s'opposaient à la colonisation, et non des moindres.
Et non des moindres. Alors, celui qui lui répond lors de cette fameuse séance du mois de juillet 1885, tout de suite dans la foulée, c'est Georges Clémenceau. Et lui, je veux dire, avec un talent oratoire qu'on connaît tout de même, il ne va pas y aller par quatre chemins. Il dit « race supérieure, race inférieure, pour ma part j'en rabats singulièrement, depuis que j'ai vu des savants allemands démontrer scientifiquement que la France devait être vaincue dans la guerre franco-allemande, parce que le français est d'une race inférieure à l'allemand. Depuis ce temps, je l'avoue, j'y regarde à deux fois avant de me retourner vers un homme et vers une civilisation et de prononcer « homme » ou « civilisation inférieure ». Remarquable quand même.
Il y a d'autres opposants, Pierre Baron, à Jules Ferry, à ses discours pro-colonisation ?
Il y a ceux auxquels on s'attend. Je pense notamment un peu plus tard, bien sûr, à Jean Jaurès. Mais il y a ceux auxquels on ne pense pas immédiatement, c'est-à-dire une partie de la droite et notamment les monarchistes.
Alors ça, c'est très étonnant, effectivement. Oui. On ne les aurait pas forcément cités en premier parmi les personnalités politiques hostiles à la colonisation.
Et la droite monarchiste, à ce moment-là, elle était anticolonialiste. Pourquoi ? Parce que pour elle, c'était une perte d'argent, c'était une perte de moyens, et que pour les royalistes, en gros, je suis peut-être un peu familier, mais il fallait mettre le paquet pour reconquérir l'Alsace et la Lorraine. Et donc, tout ce qui faisait qu'on allait sur des champs de bataille, on mobilisait notre armée ailleurs, eh bien, faisait qu'on ne reprenait pas les territoires qu'on avait perdus en 1870. C'est uniquement pour des raisons de patriotisme interne que les royalistes sont des farouches opposants à la colonisation.
Alors là, on a posé le décor, on va dire, idéologique de l'époque. On était à la fin du 19e siècle. On va avancer dans le temps pour essayer aussi de continuer d'évaluer les propos d'Emmanuel Macron sur la colonisation, crime contre l'humanité. Propos qu'il a tenu il y a une quinzaine de jours. Et donc là, on va se projeter à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Que se passe-t-il juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale ? Là, on rentre dans une période où, effectivement, on va pouvoir commencer à parler de torture ou d'atrocité. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Il s'est passé d'abord, Thomas, qu'il y a la bagatelle de 500 000 hommes, maghrébins, donc pas seulement algériens, qui se sont tout de même engagés pendant la Seconde Guerre mondiale avec l'armée française. À partir du moment où on gagne la guerre, il y a un mouvement naturel, je ne sais pas, mais il y a un mouvement légitime, je ne sais pas, mais il y a un mouvement. L'armée française, nous avons été soldats français, donc nous allons remettre en avant notre demande d'indépendance au lendemain de la guerre.
Et c'est-à-dire que ça s'était amorcé avant la guerre et ça prend évidemment encore plus de puissance au sortir de la guerre en 1945. Comment ? Oui. Par des manifestations, en fait ?
Oui, notamment en 1947, une d'entre elles qui est restée dans l'histoire, on va dire comme étant le prémisse des événements qui vont arriver plus tard, c'est ce qu'on a appelé les événements de Sétif. Sétif, c'est une ville qui se trouve à 300 km à l'est d'Alger. Et là, dès 1945, il y a une manifestation qui réclame la fin du colonialisme. Elle va tourner cette manifestation en émeute parce qu'il y a un jeune homme qui a brandi le drapeau algérien, évidemment, ce qui était interdit. Et tout de même, il va y avoir pendant 7 semaines, près de 2 mois, une terrible répression qui va faire des milliers de morts parmi la population arabe, la population locale. Ça, c'est le début du commencement de ce qu'on va voir arriver ensuite un peu plus tard.
Donc 1945 à Sétif, la guerre d'indépendance. Alors évidemment, ce n'était pas les termes qu'on employait à l'époque dans les médias français. La guerre d'indépendance va accentuer les violences des deux côtés, vous nous l'avez dit tout à l'heure, et c'est ce que l'on va détailler dans un instant dans La Curiosité. Restez avec nous sur RTL.
Vous écoutez RTL.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
La colonisation, le mot ravive les souvenirs et déclenche encore les passions. 55 ans après la fin de la guerre d'Algérie, on l'a vu il y a 2 semaines après la phrase du candidat Macron, parlons de crimes contre l'humanité pour caractériser cette période de notre histoire. On la raconte d'une façon absolument dépassionnée avec notre consultant en histoire Pierre Baron. Pierre, nous sommes au début des années 50, quelle est la situation en Algérie et qu'est-ce qui va déclencher ce qu'on appellera longtemps les événements ?
Ce qui va déclencher tout ça se passe le 1er novembre 1954. Ce jour-là, il y a 70 attentats qui ont lieu dans une trentaine de points différents sur le territoire algérien. Alors bien sûr, il y a des bombes qui éclatent, des récoltes qui sont incendiées, des poteaux électriques sabotés ou des commissariats mitraillés à l'arme lourde. Pour la première fois, le FLN, le Front National de Libération, revendique officiellement ses actions. Et c'est cette journée qui, pour la plupart, la quasi-totalité des historiens, marque véritablement le début de la guerre d'Algérie. Attention, c'est très significatif qu'on a longtemps appelé en France les événements d'Algérie. Donc qu'on ne nommait pas ici comme étant une guerre, on parlait des événements.
Oui, et ça va durer 8 ans, et l'une des pratiques de cette période, c'est la torture, qui évidemment va marquer à jamais les corps et les mémoires. Sait-on dans quelle proportion elle était pratiquée ?
Non. D'abord parce que ça paraît assez immédiat de dire que personne n'allait s'en vanter. Oui. Et que là-dessus, effectivement, on a quoi ? On a des travaux d'historiens dont les chiffres, là encore, sont extrêmement variables. C'est vrai qu'on dispose, Thomas, de beaucoup de témoignages. On sait, avec certitude, je les ai vus moi-même, que des rapports ont été adressés aux responsables politiques, comme Pierre Mendès France, ou De Gaulle, ou Charles de Gaulle. On sait aussi que de jeunes officiers, souvent d'ailleurs, du fait de leur éducation chrétienne, ont protesté par écrit auprès de leur hiérarchie, et que ces lettres sont restées le plus souvent dans les tiroirs de l'état-major.
Et l'année 54, c'est une année forte pour la France. En mai 54, l'armée française venait de subir une défaite cuisante en Indochine, à Dien Bien Phu. Elle ne voulait, la France, absolument pas connaître une nouvelle décolonisation.
Ah oui, tout à fait. C'est, je dirais, c'est une circonstance ou plutôt une espèce de concomitance aggravante.
Alors ça n'excuse pas, mais ça peut expliquer les pratiques de certains militaires, c'est ça ?
Disons que l'armée n'avait pas envie de subir l'affront de Dien Bien Phu une deuxième fois. Et que peut-être que, avec, encore une fois, sur le papier, cette défaite qui était impensable, dans laquelle le rapport militaire effectif nous était tout favorable, eh bien l'armée française, elle n'avait pas envie de se retrouver dans une autre situation, c'est-à-dire peut-être aussi abandonner, lâcher, appeler ça comme vous voulez, par les politiques.
Est-ce qu'il y a seulement des militaires qui ont pratiqué la torture ?
Ah oui, il y a des militaires qui ont pratiqué la torture, ça ne fait aucun doute.
Et d'autres catégories de,
voilà.
d'autorité, on va dire ?
Qui a pratiqué la torture pendant ces années ? Ce qu'on appelle les forces coloniales. C'est-à-dire l'armée, dans quelle proportion je l'ignore, et la plupart des historiens l'ignorent, la police a pratiqué.
La police aussi, d'accord.
Si j'en crois quelqu'un qui pour moi est extrêmement respectable, c'est l'historien Pierre Vidal-Naquet, qui a beaucoup milité contre la torture. On pense que ça pouvait concerner des centaines de milliers d'Algériens, la torture, sans plus de précision. Mais, et ça je tiens à le dire, la torture, elle a aussi été employée par les combattants indépendantistes, qu'ils soient du FLN ou de l'ALN. L'ALN, c'était une autre branche de l'indépendance. Que cette torture, elle a été pratiquée par la LN ou le FLN sur des harkis, et c'était les musulmans qui combattaient aux côtés de l'armée française, mais aussi sur des pieds noirs, ou sur des Algériens que les gens du FLN ou de la LN jugeaient trop modérés. Donc la France, je suis désolé de le dire de façon carrée, mais elle n'a pas le monopole de la barbarie dans ce domaine.
Pierre Baron, on a beaucoup parlé, et à juste titre d'ailleurs, d'expropriation, donc de violence, de torture. Mais pour certains, quand même, la République a aussi apporté avec elle, de l'autre côté de la Méditerranée, de réels progrès. Est-ce que c'est le cas? Et quels sont-ils?
Si on s'en tient aux chiffres, on va donner deux, trois exemples. De 1950 à 1962, donc pendant les années dont on vient de parler, hein, dans les principales villes d'Algérie, le taux de scolarisation des enfants passe de 15 à 34%. Prenons la santé. Le taux de mortalité infantile, qui pouvait atteindre 30% dans la population algérienne en 1830, l'année où les Français sont arrivés, passe en gros à 13%. C'est beaucoup, mais on passe de 30 à 13. Je rappelle aussi pour mémoire qu'en matière de médecine coloniale, la France compte un prix Nobel, Alexandre Lavran, qui a été récompensé en 1907, puisque c'est lui qui a identifié le parasite responsable du paludisme.
Donc là, on est dans une phase, vous l'avez bien compris, où on essaye de lister un certain nombre d'effets positifs de la colonisation. Évidemment, cette phrase-là peut choquer certaines oreilles, mais je pense que c'est important d'avoir un regard assez équilibré sur cette époque. Par exemple, quand on parle des infrastructures, est-ce qu'il y a des infrastructures qui sont héritées de la colonisation et qui servent encore aujourd'hui en Algérie? Et si oui, lesquelles?
Oui, il y a eu des maternités, des routes, beaucoup de routes, des voies ferrées que la France a laissé derrière elle. Est-ce qu'elles servent encore aujourd'hui? Je l'ignore. Est-ce qu'elles ont été entretenues? Je l'ignore. En tout cas, elles ont été bâties et construites.
Il y a aussi, alors c'est intéressant de le dire, un ferment idéologique aussi, d'une certaine façon, l'héritage laissé par la période coloniale.
Ouais, c'est vrai, Thomas, c'est paradoxal, mais on peut se dire que d'une certaine manière, les colonisateurs ont aussi contribué à créer une conscience nationale. Alors, il y avait deux solutions. Soit ils ont suscité, en réaction à leur présence, la renaissance d'une conscience antérieure à la période coloniale. Ça a été le cas au Maroc, ça a été le cas en Tunisie, ça a été le cas au Vietnam. Soit ils ont participé toujours à leur insu, et toujours par choc frontal, à la naissance d'une nation. Comme en Algérie, je rappelle, qui n'était pas une unité territoriale et nationale avant la conquête française. Ça ne faisait pas qu'un tout. La Kabylie n'était loin de se fondre culturellement dans l'Algérie.
Comment expliquer d'un mot que ce soit toujours aussi à vif, 55 ans après?
C'est ce qui fait la différence entre la mémoire et l'histoire. Les rapatriés, là-bas, ils ont laissé leur logement, leur travail, leur mode de vie, mais aussi leur mort dans les cimetières. Les Algériens, ils ont connu, on l'a vu, la répression et la torture. Et même si aujourd'hui, des deux côtés, 90% des gens, heureusement pour eux, n'ont pas connu cela, il faut plus de deux générations pour panser ces plaies. La seule chose que je voudrais dire avant de conclure, c'est qu'il vaudrait mieux éviter de déterrer de faux débats en histoire, que ce soit sur la colonisation ou sur nos ancêtres les Gaulois, à chaque campagne. Alors, messieurs les candidats, à bon entendeur, salut.
Oui.
Merci Pierre Baron, à bientôt sur RTL.
Vous écoutez RTL.